Séquence pour comprendre et débattre, une séquence d'informations proposée par Radio PFM et Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes habitant à Rajoie, membre de Culture et Liberté et d'Attaque. Bon, on poursuit notre série d'émissions sur le thème de l'éducation populaire. On en arrive maintenant aux années 80 et l'arrivée de ce que vous définissez comme la vague libérale. Alors, quelle influence ça a sur les mouvements d'éducation populaire à cette époque ?
De la même manière que 36 et 45 avaient vu apparaître dans la construction de la société l'importance que l'éducation populaire existe, la vague libérale remet en cause tout le contrat de 1945. Le contrat de 1945 reconnaissait le fait associatif dans la construction de la société. Il reconnaissait qu'il y avait nécessité que l'État intervienne pour faire la société, avec les services publics et des missions de services publics. Et tout ça va être remis en cause. Alors, ça va avoir des conséquences très précises. Dans le modèle libéral, c'est le marché qui est chargé de tout réguler. On n'a pas besoin de vie associative pour réguler. La fonction qui est demandée à l'État, c'est uniquement d'assurer ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la justice, la police et l'armée. Et dans le modèle européen libéral, où les peuples d'Europe, de par leur histoire, ne sont pas en capacité d'accepter ce modèle américain dans toute sa splendeur, l'État, on va lui demander au coût le plus limité possible, de limiter les dégâts au maximum. J'ai l'image d'un hamac, tu vois, d'un truc pour que les gens ne meurent pas dans la rue, que ça soit pas, quoi, quand ils meurent dans la rue. C'est ça qu'on va demander à l'État. Et pour opérationnaliser ça, pour faire à moindre coût ces fonctions minimales pour que la société réussisse à tenir, le capitalisme n'est pas intéressé. C'est pas là-dessus qu'on peut faire du profit. Et le secteur associatif, par contre, va être utilisé par les puissances publiques pour assurer ce minimum. Et donc, les subventions vont aller uniquement pour ce minimum. Et elles vont aller en diminuant d'année en année. Ça va se manifester sous forme... Le financement public est là, c'est sur les 5 dernières années, alors c'est évident. D'une année sur l'autre, on va avoir des contrats de plus en plus courts, de plus en plus en insécurité, c'est-à-dire qu'on nous donne un financement. Est-ce qu'on l'aura tout de suite après ? Est-ce qu'on pourra continuer ce qu'on a demandé ? Eh bien, on ne le sait pas. Et de plus en plus encadré, c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup plus de temps pour devoir justifier de l'utilisation de ce qu'on a fait, est-ce que ça correspond bien à la commande à très court terme qui nous est demandée. On va le revoir aussi, la remise en cause par l'État de tout ce qui est les têtes de réseau. Ce qui permet de produire de la pensée collective, c'est à partir de l'action. C'est non seulement l'action elle-même, mais c'est la réflexion sur ce que l'action a produit. Et ce financement-là était financé depuis 1945 par les têtes de réseau. Les grandes fédérations recevaient du financement public pour assurer cette fonction-là, pour assurer une réflexion, pour faire en sorte que des gens qui agissaient à différents endroits de France puissent se retrouver, réfléchir et théoriser un peu ce qui se faisait. Et c'est ce financement-là qui a tendance à disparaître. En 2005, les foyers ruraux ont vu leur enveloppe pour financer la fédération diminuer de moitié d'une année sur l'autre. Ça veut dire un certain nombre de postes de permanents qui disparaissent complètement. Ça veut dire les moyens d'échange sous forme de journaux qui sont appelés à disparaître. Donc voilà ce que va avoir comme effet sur la vie associative, voilà les conséquences directes sur la vie associative que ça va avoir.
Paul, on entend beaucoup ces dernières années parler d'efficacité des services publics. Et est-ce que c'est cette volonté d'efficacité qui est en contradiction avec la démarche d'éducation populaire dont l'impact se compte plutôt en termes de développement de personnes, quoi, de développement intellectuel, développement individuel.
Alors, effectivement, on utilise le terme d'efficacité. Je veux y revenir parce que cette manière de poser le problème est le contraire de l'efficacité. Et je le démontre. Quand on demande d'apprendre à lire à quelqu'un, pour apprendre à lire, selon le niveau, s'il faut 1200 heures, et qu'on donne 200 heures de formation à quelqu'un, eh bien les 200 heures, on les a perdues. Parce que la personne ne peut pas apprendre à 200 heures. Et au bout de 200 heures, elle se retrouve sur le côté. Et puis, eh ben, à un autre moment, elle va revenir dans le secteur. Et elle reprendra 200 heures, qui seront de nouveau perdues. C'est au nom de l'efficacité qu'on veut diminuer. C'est le contraire que ça produit. Le discours autour de l'efficacité, c'est pour dire on ne gaspille pas l'argent public. Et c'est quelque chose que tout le monde peut bien entendre. Mais cette manière de poser les affaires, c'est du gaspillage.
Alors Paul, parallèlement à ces réductions de budget, cette volonté que l'État a de se débarrasser de certaines de ses missions, on a tout un mouvement que vous définissez comme une sorte de renaissance de l'éducation populaire. Alors à quoi c'est dû ça ?
La renaissance de l'éducation populaire va être liée à deux choses. D'une part, je crois qu'avec la mondialisation, on voit les dégâts que ça produit. Et on va avoir, de la même manière qu'au XIXe siècle, des gens qui s'étaient organisés en disant « mais ce modèle de société, on n'en veut pas ». Je prends l'exemple, je trouve, parce que c'est le plus criant, c'est l'organisation ATTAC. ATTAC se crée en 1998. Et va avoir une montée en puissance autour de gens qui disent « mais non, on est dans le non-sens, on est dans une société qui va dans le vide et il y a nécessité qu'on réagisse ». On va avoir ce mécanisme-là, c'est-à-dire par rapport à la situation qui s'empire, des gens qui disent « il faut faire autre chose ». D'une manière relativement généraliste, si on regarde l'ATTAC, mais aussi, par exemple, je prends une organisation comme Droit au logement, le DAL. Droit au logement, on n'est pas dans un mouvement d'éducation populaire au départ. On est dans un mouvement d'action. C'est pas acceptable que les gens meurent dans la rue. C'est pas acceptable que les enfants ne puissent pas avoir un toit pour faire leurs devoirs le soir. Et autour de l'organisation pour avoir un logement, il va y avoir toute une formation du peuple qui se fait. C'est à travers l'action que l'éducation se fait. Et on va avoir donc une remontée de l'éducation populaire sous cette forme. On va avoir dans d'autres niveaux, je prenais dans le domaine de la culture, des organisations comme Didouda, où de dire la chanson, c'est pas l'affaire d'une élite qui passe à la télé. La chanson, c'est un plaisir et il faut que tout le monde puisse le vivre. On est dans un renouveau de l'éducation populaire. On a vu dès 81, à travers, ici on est bien placé pour le savoir, à travers les radios locales, comment progressivement, des gens se disaient « mais l'information, on veut se l'approprier ». On va avoir aussi des organisations qui, du fait des crises qu'elles vont subir, vont en revenir à donner sens. Quand les pouvoirs publics coupent les subventions progressivement, un certain nombre de salariés, y compris des salariés des associations qui étaient dans l'association, peut-être pas sur un projet d'éducation populaire, mais pour gagner leur vie, pour faire un métier auquel ils tenaient. Quand ils voient que les conditions pour exercer leur métier sont remises en cause régulièrement, ils finissent par se dire « mais quel sens a notre action ? Quel sens ça a quand on nous demande de former des gens qu'on n'arrive pas à former, d'accompagner des gens dans des dispositifs d'insertion qu'on laisse tomber ?» À coup de petits dispositifs les uns et les autres, un certain nombre de ces salariés vont se dire « mais quel sens ça ?» et vont en revenir à l'idée « mais quel sens on veut que ça ait ?» et on retourne au projet associatif. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un des effets de la remontée de la grande vague libérale a fait renaître différemment l'éducation populaire, y compris chez les grandes fédérations. Les grandes fédérations qui, à certains moments, s'étaient tournées vers des dispositifs publics en disant c'est ça qui nous fait vivre, finissent par se réinterroger sur le sens de leur action. Je prends, bon, puisque je suis membre de Culture et Liberté, c'est en 98 que Culture et Liberté, son rapport d'orientation dit le développement solidaire, un projet d'éducation populaire. C'est-à-dire on ne se repositionne plus par rapport à des dispositifs, mais par rapport à un projet de société, qui est une société où ce soit la solidarité qui se développe.